Zero Hour Cat Radio Presents, Zero Hour Radio, fréquence Polar Noir.
Look at me.
Les rendez-vous de Zero Hour. Action. Moteur.
Festival Polar, la Canourgue Noire. Didier Deninx, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accorder cette petite interview pour la radio de Rodez, CFM Radio. Je voulais savoir, Didier Deninx, la position d'un auteur aujourd'hui face à Internet. Est-ce qu'on peut continuer à écrire des polars de la même façon qu'on les écrivait il y a encore 10 ans, 20 ans en arrière?
Non, pas simplement les polars. Toute écriture maintenant est cernée par les facilités d'Internet. Moi, je m'en suis rendu compte véritablement il y a 4 ou 5 ans. J'ai écrit un livre qui n'est pas du tout un polar, qui est une sorte de biographie romancée d'un personnage, une sorte de Coluche pendant la Commune de Paris en 1871. Un type absolument incroyable que j'avais débusqué comme ça dans mes lectures. Et j'ai essayé de reconstituer sa vie. Et grâce à Internet depuis mon bureau en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, en interrogeant Internet, j'ai réussi à aller dans tous les journaux de l'époque, de 1870, 71, les années 80, et je l'ai suivi à la trace pendant 30 ans. J'avais pratiquement des nouvelles de lui, parce qu'il a fait des choses absolument incroyables. Il a inventé les restaurants du cœur en 1882, un siècle avant Coluche. Il a inventé le striptease, il a été déporté en Nouvelle-Calédonie, un personnage de cabaret. Enfin, et donc, on en parlait beaucoup, il a eu plein de procès et tout. Et grâce à Internet, en 3 mois, j'ai reconstitué, j'avais une matière absolument incroyable. Quelqu'un, un historien ou un romancier qui se mettait sur la piste de Maxime Lisbonne, il s'appelle, avec les moyens traditionnels des archives, comme ça, le travail que j'ai fait en 3 mois, c'est plusieurs années de bénédictin. C'est-à-dire, en plus, avec les systèmes de recherche, d'un seul coup, je tombais sur lui. Tandis que dans les archives, des fois, on remue 25 cartons avant de trouver une pièce. Donc, il y a un découragement, il y a une sorte de lutte contre la paperasse qui est assez déprimante. Là, au contraire, c'est quelque chose qui était toujours enthousiasmant. Tous les matins, la pêche était miraculeuse.
Donc ça, en fait, c'est pour le côté positif d'Internet. Il y a aussi le côté négatif, on va en parler tout à l'heure. Concentrons-nous sur l'instant, enfin pour l'instant, sur le côté positif. Donc c'est vrai que pour la documentation, c'est un outil exceptionnel.
Salut.
Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est en tant qu'auteur, au niveau de la trame, au niveau de la mécanique même interne d'un récit, est-ce qu'on peut continuer à développer une intrigue de la même façon qu'il y a 20 ans, alors que les téléphones portables n'existaient pas, Internet n'existait pas. Donc là, en fait, ça crée davantage de barrières encore pour un auteur, pour éventuellement imaginer les rebondissements d'une histoire.
Non, au contraire, ça les multiplie.
Je vous remercie de rebondir sur le piège. Oui, allez-y.
Ben, bien sûr, ça les multiplie. C'est-à-dire, toutes les traces qui peuvent être laissées maintenant, ce qui est important pour un romancier. Souvent on parle de quelqu'un qui a disparu, il y a véritablement quelqu'un qui nous manque, et la seule chose qui nous relie à lui, c'est la multiplicité des traces qu'il a laissées. Avant, les romanciers, il y avait les traces comme ça, des vêtements, une bibliothèque, une pièce qu'il avait habitée, il y avait le souvenir dans l'esprit de ceux qui l'avaient aimé ou ceux qui l'avaient détesté. Donc il y avait tout ça qui était là. Puis un jour, il y a eu les empreintes digitales, un jour il y a eu les analyses toxicologiques, et un jour il y a eu, et d'un seul coup on est rentré dans l'intimité du corps de l'autre comme ça, et aujourd'hui on peut pas se passer des messages qui sont sur des téléphones portables. On sait que les disques durs recèlent. Qu'est-ce qu'a fait cette personne qui était totalement secrète? D'un seul coup, avec son disque dur, on va s'apercevoir que dans les 5 dernières années, il a consulté 3 millions de sites internet. Et d'un seul coup, on va découvrir des fixations sur certaines choses que tout le monde ignore, que lui-même peut-être ignorait. Donc d'un seul coup, on est dans quelque chose, on s'approche de plus en plus de la complexité de l'âme humaine avec les moyens de la technique. Donc ça, c'est absolument et ça ouvre des portes à tout le monde. Alors l'ADN maintenant, enfin, c'est quelque chose de comment qui a été une ouverture pour tous les romanciers. Moi, il y a des choses que j'arrive pas à lire. Tout ça sur la criminologie, sur les sciences et tout. Mais par exemple, il y avait un copain qui m'avait mis entre les mains un livre de photos qui représentait la manière dont des crimes étaient résolus avec les animaux qui se mettaient à l'abri dans le cadavre. Et donc, suivant les animaux et tout, ça donnait... Enfin, les animaux, c'est les insectes, hein, pour l'essentiel. Et donc, il y a des gens qui font des enquêtes uniquement à partir des insectes qui se sont emparés de ce qui reste de l'enveloppe humaine. Et donc là, il y a des gens qui ont écrit des romans là-dessus. Moi, j'en suis totalement incapable. Mais c'est fascinant en même temps. Totalement, totalement fascinant.
Est-ce que le pauvre inspecteur Cadin a quitté la scène, on va dire, à un moment où le monde commençait à le dépasser? Parce que Cadin, quand même, était très emblématique. C'était un personnage très attachant, quoi. Il était peut-être plus attachant encore, pardon pour la référence, qui n'a rien à, peut-être à rien à voir, mais le Poulpe aussi est très attachant comme, comme personnage. Cadin était... C'est dommage de l'avoir, en fait, zigouillé, Cadin.
C'est un personnage des années... disons des années 75 à 90, il y a 15 ans comme ça, c'est un personnage qui est comptable de quelque chose que moi j'ai vécu, ma génération a vécu une chose, il y a eu dans la préhistoire, il y a un truc qui s'appelle mai 68, il y a très 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 longtemps comme ça, et à ce moment-là, la société française qui était une société totalement
sclérosée,
qui était une, disons une société en noir et blanc, d'un seul coup elle a découvert la couleur, et il s'est passé des bouleversements complets, et les gens qui tenaient cette société ont eu une frousse absolument incroyable. Ils ont essayé d'enchaîner, ils ont essayé de tout fermer et tout. Et dans les années 70, la société était au bord de l'implosion. Et sous le septennat de Giscard d'Estaing, par exemple, on a eu le droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans. On n'était plus dépendant des parents. Et les institutions ont commencé à se craqueler et tout. Et donc, moi, mon personnage de Cadin, il accompagne ce moment-là. C'est-à-dire un moment où la société respire. La société, d'un seul coup, a l'impression que la liberté est à portée de main. Et ce qui se passe à partir de 1989-1990, c'est ce que j'ai vécu. Il y a tout, d'un seul coup... Le balancier de l'histoire, qui était un balancier qui était en train de libérer la société, de libérer les individus, on a l'impression qu'il s'arrête vers les années 86-87, et puis peu à peu il recule à grand fracas. Quand il y a le mur de Berlin qui se fissure, qui s'ouvre, et ainsi de suite, d'un seul coup on pense que ça y est, le monde est réunifié, la paix est à portée de main. Et boum, dès 1989, le mur de Berlin, 90, la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, c'est le début des grands malheurs qu'on est en train de vivre et de payer 100 fois le prix. Et donc, à un moment, à partir de 89-90, les espoirs sont déçus et d'un seul coup, le balancier d'histoire revient en arrière. Et maintenant, c'est la religion les religions rétrogrades, il n'y en a pas qu'une. Hein, c'est les hordes qui défilent dans le Moyen-Orient, mais les hordes qui défilent sur les Champs-Élysées contre le mariage pour tous, et ainsi de suite. Donc, il y a d'un seul coup des sociétés qui reculent et où l'air se raréfie. Et mon personnage d'inspecteur Cadin, pour en revenir à lui, en 1989, il décide de quitter la scène parce qu'il ne veut pas assister à la négation de tout ce à quoi il était attaché. Donc moi j'arrête ça parce que c'est un personnage qui est un personnage désespéré dans un monde qui se libère. Et à partir de 90, ça aurait été un personnage désespéré dans un monde qui se désespère. J'avais pas envie de faire ça. Everything's changed. Nothing remains the same. Everyone must change. No one and nothing remains the same. Down becomes the old. Oh, Mr. That's the way of time. Nothing and no one remains the same. There is all little and life you can be sure of. Ooh. Except the rain comes from the clouds, sunlight from the sky, and hummingbirds do fly. Young becomes
mysteries do unfold. That's the way of time. Nothing nor one remains unchanged. There are so little things, so few things in life you can be sure of. Except rain comes from the clouds, sunlight from the sky, hummingbirds do fly.
Ne peuvent pas le voir, mais je le vois moi dans vos yeux. Il y a un petit regret quand même d'avoir abandonné Cadin. Donc ce serait peut-être pas une mauvaise idée de faire comme Conan Doyle éventuellement, pourquoi pas ressusciter Cadin.
Non, parce que
il aurait en tout cas sa place dans le monde aujourd'hui avec ce qui se passe.
Mais comment, il y a toutes les choses, parce que moi je travaille sur le collectif, hein, dans mes bouquins ça parle beaucoup d'histoire et d'histoire et d'aventure collective et d'aventure individuelle. Et ce qui se passe dans la fin de Cadin, c'est quand d'un seul coup son histoire individuelle rejoint l'histoire collective et que deux désespoirs se mettent ensemble et tout. Comme en moi 1989, c'est la chute du mur de Berlin, c'est toutes ces choses-là comme ça. Et c'est aussi la mort des gens qui me sont le plus proches. Donc il y a une parenthèse personnelle qui se referme en 89. 89, pour moi, c'est une année terrible. C'est pas simplement le monde qui se fige, c'est d'un seul coup des gens qui se figent sous la pierre, quoi. Et donc Cadin, il est là-dedans, quoi. Il parlait à des gens qui m'étaient essentiels et qui quittent la scène à ce moment-là aussi, quoi.
Beside a garden wall.
Est-ce que c'est pas aussi à travers Cadin le constat que la façon d'écrire le polar tel que on l'avait connu pendant, on va dire, 50 ans, 60 ans, bah le polar il arrive, enfin le polar classique, traditionnel, arrive un petit peu à bout de souffle, un petit peu comme Cadin, et qu'il y a, une sorte de train en marche qu'il est difficile pour des gars comme Cadin de prendre, quoi. Voilà. Est-ce qu'à partir de ça, on ne peut pas imaginer éventuellement qu'il y ait une suite à Cadin ? J'insiste parce que c'est un personnage qui est, il est superbe, c'est magnifique, c'est dommage, il y a beaucoup de lecteurs qui regrettent que vous ayez, que vous ayez mis fin à ses jours. Donc est-ce que ce serait peut-être pas une bonne idée d'imaginer qu'il y ait un remplaçant de Cadin ou
non. D'une certaine manière, le poulpe, ça a été ça, parce que le poulpe, il a 80% des caractéristiques de Cadin.
C'est pour ça que je faisais le parallèle.
Et Pouy, quand il a créé le poulpe, il y a la trame de Cadin, moi je la vois, comment, et puis j'en ai écrit trois poulpes, je vois le fonctionnement. Et ce qu'il y a, c'est que la mélancolie de Cadin, parce que c'est un personnage extrêmement mélancolique.
Parce qu'il est très réaliste, justement.
Et nostalgique. Ça, c'est enlevé dans le poulpe. C'est cette partie-là, il y a une ablation de la nostalgie et de la mélancolie, et qui est remplacée par le côté d'Artagnan libertaire. Hein. Donc, c'est un personnage, le poulpe, qui est un personnage beaucoup plus aimable. Pour cette raison-là, c'est un personnage qui rend les coups et tout, alors que Cadin ne rend jamais les coups. C'est quelqu'un qui...
C'est une éponge.
C'est une éponge, c'est quelqu'un, il n'a pas d'airbag, c'est-à-dire le malheur des autres, il n'arrête pas de se charger du malheur des autres. Ce qui n'est pas du tout le cas du poulpe. Donc il y a 80% de... Je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage créé par Pouy, le poulpe, parce qu'il y avait une grande partie de la psychologie et de Cadin, et puis il y avait cette partie-là qui était changée et qui fait l'originalité du personnage du poulpe.
Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. Dream of you, James, James. Da-di-do-di-do. Boom, chiboom, boom, da-di-doo, chiboom, chiboom, boom, da-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. Dream of you, James, James, James. Da-di-do-di-doo, chi-bum, chi-bum-bum. Da-di-do-di-doo, chi-bum, chi-bum-bum. Da-di-do-di-doo. Questo amore è buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Lamb of you, James, James. Da-di-do-di-do, chi-bum, chi-bum-bum.
Question, est-ce que le polar est vraiment un révélateur de la société ou est-ce qu'il est une tentative d'anticipation des démons que la société ne veut pas admettre ?
Je sais pas. Chacun, le polar, le roman noir, la manière dont il se développe à travers le monde entier, comme ça maintenant, il y a des romanciers qui nous apprennent comment ça se passe en Inde, hein, grâce à la structure policière. J'ai l'impression que c'est une des formes littéraires les plus modernes, les plus solides. C'est-à-dire que avec la structure narrative du roman noir, du polar et tout, on peut pratiquement tout se permettre. C'est véritablement un patchwork comme ça, et donc chacun peut fabriquer son puzzle. Faut être assez maladroit pour rater le coup. Et donc tout le monde s'en empare comme ça de ça, et cette barque, on s'aperçoit que cette barque, on la charge, et elle est toujours, comment, la ligne de flottaison n'est jamais atteinte, quoi. On peut véritablement. Donc c'est cette modernité du polar qui m'intéresse, moi. Son rapport à l'histoire. Le rapport à l'histoire du polar, c'est qu'un polar, de manière un petit peu schématique comme ça, c'est toujours l'histoire de quelqu'un qui a disparu. Cette personne a disparu. C'est un hommage aux victimes. Et c'est un travail sur les traces. Dans une société où les traces existent de moins en moins, où on travaille sur le robinet BFM et ainsi de suite, où ça n'arrête pas de couler, où ça ne s'archive plus, l'archive devient, on s'y perd et ainsi de suite, d'un seul coup, on a une espèce de tentative humaine où chaque jour que l'on vit, il est là, quoi. Il est là, il est possible d'y accéder. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent dans le polar. Travail sur les traces. Dans une société qui ne cesse d'effacer les traces, travaille sur la mémoire humaine dans une société qui abolit le passé et qui vit dans un présent, dans une sorte de dictature du présent permanent. Donc voilà, c'est ces choses-là comme ça. Et puis la réflexion sur l'histoire. Donc beaucoup beaucoup de romanciers, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, partout, en Allemagne et tout, il y a véritablement ce rapport à l'histoire qui devient de plus en plus important. Moi, j'ai été un des premiers à le faire dans les années 80, début des années 80, avec Meurtre pour mémoire, Guerre d'Algérie et tout. Et là, ça, c'est quelque chose qui de plus en plus arrive. C'est-à-dire que on interroge David Peace et tout, interroge des années Thatcher à partir du polar et ainsi de suite. Et il fait une radiographie à partir du meurtre. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il y a un grand cadavre qui pourrit sur l'Angleterre, c'est le cadavre de la classe ouvrière qui est là et tout. C'est comme une énorme baleine échouée, sauf que personne ne veut voir cette énorme baleine échouée. On fait semblant de ne pas sentir cette puanteur de la mort. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ces romanciers-là qui m'intéressent, qui disent comme ça, qu'il y a toute une série de choses qu'on nous éduque à ne pas les voir, à ne pas les sentir, à faire de l'évitement, mais les sociétés se vengeront à un moment ou à un autre, quoi.
Starless, the night may be moonless, but deep in my heart there's a glow for, deep in my heart I know that you love me. You love me because you told me so. Love letters straight from your heart, keep us so near. Not alone in the night, when I can have all the love you write. I memorize every line. Kiss the name you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. Kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from
le personnage de l'inspecteur ou du détective dans le polar, c'est le révélateur de la société.
C'est un révélateur de ça, mais tout simplement parce que le personnage de l'enquêteur, c'est un personnage, son outil, c'est quoi? C'est la loi. Et la loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est quelque chose qui est voté par les parlements, c'est un rapport de force politique. À un moment, on décide d'instituer la peine de mort, on décide de l'abolir, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que fait respecter le policier? Il fait respecter le point d'équilibre d'une société. Donc, le policier, il a un rôle éminemment politique. C'est policier, politique, on nous l'a fait. Mais sauf que, il n'y a pas simplement l'étymologie qui est tout, c'est sa fonction. Sa fonction, c'est de réguler les pulsions d'une société et de faire en sorte de différencier, de faire respecter une ligne qui n'est pas simplement imaginaire, qui est la ligne de la loi. Y aller hors la loi et y aller en la loi. Et puis, le romancier sait très bien que cette ligne, c'est une ligne qui fluctue. Et que quelquefois, souvent, de plus en plus souvent, le policier fait respecter une ligne qui n'est pas à sa place. Et donc, il y a des gens qui sont tapés alors qu'ils sont totalement dans l'humanité du temps. Et puis, il y a des gens qui sont épargnés alors que ce sont nos bourreaux. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Donc, en fait, Cadin se rattache plutôt à Nestor Burma. Dans la psychologie de l'enquêteur, quoi. Ouais. C'est pas le policier qui fait respecter la loi, etc. Ouais. Mais c'est le gars qui navigue justement dans l'ambiguïté même de l'article et des lois.
Ouais, ouais. Voilà. Mais sauf qu'avec Burma, Léo Mallet, le beau rôle en tant qu'écrivain, il en avait fait un détective. Ce qui n'existe pas. Et donc le détective, il n'avait pas ce rapport direct à la loi. Donc il n'était pas en conflit avec la loi. il était en conflit avec les individus. Donc, il a évité cette contradiction-là. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cette
contradiction. D'aller directement à la confrontation, mais bien sûr.
C'est l'écart qu'il y a entre la loi et la pratique sociale des gens. En 1975, il y a 300 000 femmes qui avortent chaque année. Elles sont hors la loi. Quelques années plus tôt, on en a guillotiné une pour avoir été une avorteuse et tout, sous le régime de Pétain et tout. Il y a des dizaines, des centaines de femmes qui meurent de la pratique de boucherie des avortements de l'époque. Elles sont hors la loi. Quelques années plus tard, Simone de Veil, qui se bat et tout, qui impose ça à une assemblée machiste. Et d'un seul coup, 300 000 femmes qui étaient hors la loi deviennent en la loi. Et d'un seul coup. Et donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce no man's land entre la pratique sociale et la loi.
Il y a une réflexion de Jean-Pierre Melville qui reste une référence du polar adapté, polar adapté à l'écran, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il a écrit par lui-même beaucoup de scénarios de ses films. Le Samouraï est entièrement écrit par Jean-Pierre Melville. Il avait une formule magnifique pour exprimer ce qu'était le polar selon lui. C'était une transcription de la tragédie classique.
Oui, oui, oui.
Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, il y a tous ces éléments-là, bien sûr, puisque on est au cœur des transgressions, des tabous et tout, donc il y a véritablement ça. Il le met en scène magnifiquement, enfin, dans des films comme Le Samouraï. Hein.
Oh God. was also in heaven. May the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul.
Venons-en maintenant à Internet, et Internet face à l'auteur, et l'auteur face à l'Internet. Bon, on a vu qu'il y avait des côtés positifs dans Internet, et il y a aussi un sacré paquet de choses négatives. J'aimerais avoir votre opinion sur le fameux projet Relire, concernant donc cette modification sur... la loi pour la protection des auteurs qui a été complètement bafouée, qui a été, c'est un article de loi qui est passé en catimini, qui a été pratiquement imposé à tous les auteurs. Il y a un article de très très bon qui a été écrit dans Le Monde par Hubert Guillot, et je pense que c'est François Bon qui fait référence justement à votre œuvre et qui vous cite, qui dit que c'est un article que vous avez complètement ripilé, quoi. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur, justement, cette modification concernant la loi de la protection et le droit d'auteur dont on parle tant aujourd'hui ?
Alors, l'histoire Relire, c'est tous les bouquins qui ont été publiés au XXe siècle et qui sont plus disponibles. Donc, il y a plein de livres qui sont plus disponibles. Et à un moment, il y a l'État qui a décidé que ces livres-là, de manière généreuse, devaient être donnés à lire. Donc, moi, j'ai rien à redire, à relire de ce côté-là. Ensuite, il y a une chose, c'est que ces livres-là, ils sont signés, il y a un éditeur, il y a... Non, l'éditeur n'a pas fait son boulot, il s'est mis hors champ. Ok. L'auteur, lui, il a peut-être envie que ce livre soit republié, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce système Relire ? C'est qu'ils décident que, de manière unilatérale, ils vont remettre en circulation de manière numérisée, sur Internet, tous ces livres-là, sans demander l'avis des auteurs. Donc, là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'un auteur, il a totalement le droit de que ses livres ne soient pas republiés. Par exemple, Pour prendre un exemple extrême, tous les pamphlets antisémites et nazis de Louis-Ferdinand Céline, beaucoup de gens pensent qu'ils sont interdits. Ils ne sont pas interdits du tout. C'est la veuve de Céline qui s'oppose depuis des dizaines d'années, depuis près de 60 ans maintenant, elle s'oppose à la publication, à la republication de ça. Et c'est un droit d'un auteur de faire en sorte, à un certain moment, de dire « cette partie de mon œuvre, j'ai pas envie que ça soit redisponible, j'ai plus du tout envie de donner ça à lire et tout ». Et c'est un droit, c'est une partie du
ça
droit.
Ça tombe sous le sens.
Ça, c'est une partie du droit d'auteur. Donc voilà, là déjà ils mettent ça par terre. Moi, je me retrouve pris dans ce maelstrom, c'est-à-dire que d'un seul coup, je m'aperçois que 15 de mes livres vont être publiés comme ça. Je me renseigne, je dis, mais attendez, j'ai rien demandé, vous allez republier mes livres, c'est la première fois qu'on publie des livres sans me demander mon avis. Comment ça se passe au point de vue financier? Ah ben ça, on n'en sait rien, rien n'est décidé et tout et tout. Je dis, attendez, c'est une transaction commerciale quand même, de mettre sur le marché et de faire payer des fichiers électroniques et tout. Donc, il me dit, non, ça, on n'en sait absolument rien, on verra plus tard. Ça n'a jamais existé, ce genre de choses. Après, je vais plus loin, je regarde, les trois quarts des livres qu'ils allaient publier étaient des livres qui étaient toujours en circulation. Tout simplement, ils avaient fait un travail qui était uniquement un travail par des robots et ainsi de suite. Donc, leur système était complètement à côté de la plaque. En plus, j'avais certains de mes livres qui ont changé de titre. À un certain moment, j'ai réécrit une partie de certains de mes livres. Je les ai modifiés et tout. Comme ça arrive pour beaucoup d'écrivains. Et donc, mes livres ont évolué. Donc, eux, ils republiaient la première édition que j'avais amendé, où j'avais vu qu'il y avait des fautes, qu'il y avait des choses comme ça, et il ne s'était pas aperçu qu'il y avait une autre édition qui était une édition totalement au point de ce même livre. Et donc, je leur dis, mais il y a ça qui ne va pas. Et là, je leur dis, mais vous n'allez pas publier contre mon avis des livres qui étaient des livres fautifs et tout. Et la réponse, c'était, si vous ne voulez pas que ce soit publié de manière numérique et tout, il faut vous y opposer, il faut nous envoyer une lettre recommandée, avec la photocopie de votre carte d'identité recto verso, et il faut nous donner la preuve que vous êtes bien l'auteur de ce livre. Et là,
on marchait sur la tête.
J'étais chez Kafka, quoi. Oui. Là, on est chez Kafka. On est en Tchécoslovaquie de 1937-1938. On est dans un système fou. Et là, je leur dis, mais attendez. Depuis que j'écris et que je publie des livres, je vais voir la maison Gallimard, j'ai mon manuscrit, je leur donne. À aucun moment Gallimard ne m'a demandé de prouver que j'étais bien Didier Daninx et ne m'a demandé la preuve que j'avais bien écrit le livre que je venais leur présenter. Je dis, c'est une folie complète, on est dans un système. Et là, vous pillez des choses sur Internet et vous allez m'obliger à devenir mon propre dénonciateur. Je dis, il y a quelque chose de totalement humiliant dans votre système. Et donc là, avec des écrivains, on a fait un espèce de petit comité, on a essayé de les pousser dans les retranchements, et puis la force de l'État a fait que cette loi est la force de loi maintenant. Et
c'est le rouleau compresseur.
C'est le rouleau compresseur. Donc avec des écrivains comme Ayerdal et tout, on a même présenté une question de constitutionnelle, machin chose, on a été jusqu'au Conseil d'État, et tout, mais bon, le système est... Alors moi j'ai réussi, j'ai envoyé ma lettre recommandée avec ma carte d'identité, avec les preuves que j'étais l'auteur de mes propres livres et que mes parents étaient les auteurs de ma propre vie.
C'est le sujet même d'un polar. Ouais. Now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too
refuse to mention I did what I had to do and saw it through without exemption. I ran each charter course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off much more than I could chew. I threw it all. My fill, my share of losing. Now, tears subside. Find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one who
concernant le droit d'auteur. L'article « Relire, le scandaleux pillage du droit d'auteur organisé par la loi ». Cet article est paru dans Le Monde, signé par Hubert Guillot, rédacteur en chef d'Internet Actu.net, blog La Feuille, paru dans Le Monde le 28 mars 2013, les premiers signataires contre cette loi dite scélérate sont Olivier Hersheid, François Bon et Lionel Morel, juriste. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas tout à fait le domaine du polar, Resituons très rapidement Didier Deninx, un des maîtres français du roman policier. Trophée 813 du meilleur roman en 1984. Grand prix de littérature policière en 1985. Prix Mystère de la critique en 1987. Prix Eugène Dabi du roman en 1990. Prix Goncourt de la nouvelle en 2012.
Ooh.